8h, 8h30, c'est dans votre intérêt, avec David Jaco, l'émission qui simplifie la gestion de votre patrimoine sur Radio Classique.
Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de C'est dans votre intérêt sur Radio Classique. Votre invité ce matin, c'est Olivier Sichel, le directeur de la Banque des Territoires. Avec lui, on parlera du livret A sur lequel les Français continuent de placer leur argent cette année. Il nous expliquera comment est employée l'épargne des 55 millions de détenteurs du livret réglementé le plus populaire de France. Vous découvrirez également une nouvelle solution de paiement qui fait fureur en Italie et qui permet de régler ses achats en flashant un QR code. Enfin, nous vous dirons également comment emprunter dans de meilleures conditions si vous avez plus de 50 ou 60 ans, notamment pour acheter un bien immobilier.
C'est dans votre intérêt, le récap.
Mais d'abord, retour sur les meilleures infos patrimoniales de cette semaine avec vous, Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Bonjour Laurent. Vous ne dites rien. Bonjour Laurent.
Ah! Pardon David, bonjour David, mais ne dit-on pas que la parole est d'argent et le silence est d'or, et comme c'est d'or que j'allais vous parler, j'ai eu un doute.
Bon, attendez, vous me l'avez pas déjà fait dans une chronique précédente, celle-là, et vous recyclez vos blagues maintenant, vous êtes fatigué mon vieux.
Ben oui, mais c'est pas ma faute David, l'ONCE, il bat encore des records, et il a même dépassé récemment les 2 400 $, double effet, il met mon stock de jeux de mots à mal et il repose la question de savoir comment investir sur le métal précieux en achetant pièces et lingots, ce qui n'est pas toujours accessible, surtout dans le cas du dernier.
Bon, faut avouer, à moitié pardonné dit-on, expliquez-nous tout.
Bon, alors, si on n'achète pas de pièces ou de lingots, plusieurs solutions existent. Il y a d'abord les ETF, on en parle souvent, ces fonds indiciels cotés en continu qui s'échangent aussi simplement qu'une action, mais ils sont investis sur des groupes miniers dont le comportement boursier n'est pas toujours corrélé de façon fidèle au cours de l'or. Il existe également, David, des ETC. On parle alors d'Exchange Traded Commodities, des produits adossés à un stock d'or physique. Et comme ils sont investis sur un seul sous-jacent, ce sont juridiquement des titres de créance, mais dans la pratique, le fonctionnement est à peu près le même. Enfin, il reste la possibilité de trouver des fonds investis directement dans un panier de matières premières via des contrats à terme. À une période où certaines matières premières affichent une tendance ascendante, ça peut être bon d'en avoir un peu en diversification dans son portefeuille, si ce n'est pas déjà le cas.
Et puisqu'on est, Laurent, dans les métaux, vous rebouclez sur le cuivre.
Ah oui, très rapidement, hein, David, pour donner l'épilogue peut-être provisoire de la tentative de rapprochement entre BHP et Anglo-Américaine, le géant australien jette l'éponge après tout de même avoir formulé 3 offres successives. Hein, il a fait de son mieux sur les marchés. Le cuivre, lui, s'est un peu calmé, mais reste toujours au-dessus de 10 000 dollars la tonne.
Bon, Laurent, vous vouliez également faire passer un petit message aux propriétaires de résidences secondaires.
Oh que oui, tendez bien l'oreille. Vous vous souvenez, David, du pataquès autour de la déclaration des biens immobiliers mise en place l'an dernier? Et conséquence de ce cafouillage, eh bien le fisc a indûment réclamé, accrochez-vous, 724 millions d'euros en 2023 au titre de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Plus du double par rapport au chiffre déjà élevé de 312 millions en 2022, avec des cas assez croquignolesque, hein. Une demande de taxe d'habitation sur résidence secondaire pour un balcon et même 16 000 parents, peut-être c'est votre cas, je sais pas, qui ont reçu des avis de taxe d'habitation sur une résidence secondaire adressée à leurs enfants mineurs.
Ben voyons. Et ça vaut le coup, pour nos auditeurs et auditrices de regarder, voilà, s'il n'y a pas eu d'erreur les pénalisant.
Ben oui, il est encore temps de réagir. Si vous êtes potentiellement concerné, vous pouvez déposer un recours auprès de l'administration jusqu'à la fin de l'année si vous estimez ne pas avoir à payer cette taxe d'habitation. Si vous avez raison, vous serez remboursé, mais c'est bien sûr, à vous d'en faire la demande. David, vous pouvez le faire pour votre somptueuse villa sur la Côte d'Azur.
Ça recommence. Ça faisait longtemps hein, que vous n'aviez pas fantasmé sur mon prétendu patrimoine.
Prétendu, c'est ce qu'on va voir.
Comment ça?
Eh ben oui, parce que c'est une disposition peu connue du livre des procédures fiscales. Mais sachez, en cette période de déclaration, qu'un particulier a le droit, de consulter l'avis d'imposition d'un tiers, pourquoi pas son voisin, pour peu qu'il vive dans son département. Alors cette demande écrite doit être faite en personne au sein de la direction départementale ou régionale des finances publiques, et la consultation se fait sur place. Vous n'allez pas repartir avec l'avis d'imposition. Hein. Vous devez pour cela fournir le nom et l'adresse du contribuable, fournir une pièce d'identité, c'est bien le moins, justificatif de domicile ainsi que votre dernière feuille d'imposition. Et cette demande doit être faite après le 30 avril de l'année suivant, celle de la déclaration que vous souhaitez connaître. Aucun motif n'est demandé, mais vous n'avez absolument pas le droit de divulguer les informations obtenues sous peine d'amende salée.
Bon, j'espère que vous aurez mieux à faire. En attendant, vous voulez terminer en parlant d'une prochaine introduction en bourse qu'il faut avoir dans le viseur.
Exactement, et pour cause, Exosens, c'est son nom, se présente comme le leader mondial des technologies d'amplification de la lumière, de la détection et de l'imagerie. Et si, cher auditeur, le nom ne vous dit pas forcément quelque chose, vous avez en revanche peut-être Encore en mémoire celui de Photonis, pépite technologique française des tubes amplificateurs de lumière dont la technologie équipe les jumelles de vision nocturne de nos forces spéciales et qui avait bien failli tomber, David, dans la besace, l'escarcelle des Américains. Depuis, l'entreprise a donc changé de nom pour marquer sa diversification dans les métiers civils. La croissance est là, la rentabilité aussi. Si tout se passe bien, l'opération devrait se concrétiser à la mi-juin avec une levée de fonds de 180 millions. Reste pour l'investisseur à ne pas perdre de vue la valorisation proposée pour voir s'il a envie de regarder l'avenir aux côtés d'Exosens en plein jour ou même de nuit.
Allez, merci Laurent. Le récap de la semaine est signé Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama.
Merci David.
Allez, c'est votre invité à présent.
C'est dans votre intérêt, l'invité.
Notre invité ce matin sur Radio Classique, c'est Olivier Sichel, le directeur de la Banque des Territoires et directeur général délégué de la Caisse des dépôts. Bonjour.
Bonjour David Jaco.
Merci d'être avec nous sur Radio Classique. 2023 a été une année exceptionnelle, record pour le livret A en termes de collecte. Est-ce qu'on peut dire que 2024, c'est plutôt une année de normalisation?
Absolument David Jaco, vous avez raison. On le voit avec les chiffres de la collecte du mois d'avril 2024. Sur le livret A, on a collecté 2,24 milliards. Et l'an dernier, à la même époque, on collectait 3,48 milliards. Donc 1,2 milliard en moins. Donc on sort des grandes années de collecte et d'épargne des Français sur le livret A.
Ouais. Sur les 4 premiers mois de l'année, j'ai regardé les chiffres, l'argent placé est 3 fois plus faible qu'il y a un an. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ça?
Alors on l'explique parce que à la période du Covid, les Français consommaient beaucoup moins et donc ont beaucoup épargné sur le livret A. Et puis ensuite, le taux du livret A a pas mal monté. On est à un taux à 3% à un moment où les placements de l'assurance vie étaient moins intéressants. Donc les Français ont bien arbitré, ont placé énormément sur le livret A, mais là, on redevient dans une phase de normalisation où le taux de 3% devient un peu moins intéressant. Et puis aussi, vous parlez du phénomène de saturation. Vous savez qu'il y a un plafond sur le livret A. Le plafond, il est souvent atteint à 22 500 euros. Et donc, on a une période où les Français réallouent leur épargne. C'est assez rationnel et financièrement très raisonné de la part des Français.
La rémunération du livret A, vous l'avez dit, est toujours fixée depuis l'an dernier, c'est ça, à 3%?
Oui.
Sauf que l'inflation a beaucoup baissé depuis un an. Donc, et c'est une bonne nouvelle, après déduction de l'inflation, le livret A est plus rémunérateur aujourd'hui qu'il l'était il y a un an, puisque le rendement réel est positif, puisque 3% de rendement moins 2,2% d'inflation, ça fait un rendement positif, alors que l'an dernier, le rendement réel du livret A était négatif. C'est une bonne nouvelle, ça.
C'est une bonne nouvelle, d'autant plus qu'il faut rappeler quand même que c'est un placement qui est incroyablement liquide. Vous pouvez mettre 100 euros le matin à la banque postale et retirer 50 euros l'après-midi. Le capital est garanti par l'État. Et puis, il faut parler peut-être aussi des emplois du livret A. C'est aussi un placement citoyen qui sert à financer le logement social, à financer le développement territorial.
Ouais. On sait que la BCE va baisser ses taux d'intérêt jeudi, sauf surprise colossale, sur fond d'inflation qui baisse aussi en zone euro à 2,4% au mois d'avril sur un an. Est-ce qu'il faut redouter, ça c'est peut-être une moins bonne nouvelle, en tout cas en perspective, redouter un abaissement du rendement du livret A, notamment après février 2025, puisque le rendement de 3% est garanti jusqu'en janvier 2025. Vous me voyez venir.
Alors, je rappelle David Jaco que c'est le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, qui fixe ce taux. Après avoir pris l'avis de la Banque de France.
Donc, avec une règle de calcul qui est mathématique derrière.
Avec une règle de calcul qui est mathématique, donc qui est une composante entre l'inflation et les taux d'intérêt. Ouais. Et c'est lui qui, en fonction de ce qu'il sent de l'économie, fait le juste arbitrage entre d'un côté la rémunération de l'épargne des Français et de l'épargne donc de beaucoup de Français, parce qu'on parle quand même d'un encours de l'ordre de 500 milliards.
Et 55 millions de livrets ouverts.
Et 55 millions de livrets ouverts. Mais de l'autre côté aussi, le besoin des emprunteurs. Et je rappelle que le premier emprunteur sur le livret A, c'est le logement social. À une époque, on connaît une grave crise du logement. Donc, avoir des taux d'intérêt élevés, vous rendez heureux 55 millions de détenteurs de livret A immédiatement. Mais si c'est trop élevé, ça freine le développement du logement social. À un moment, on a besoin de beaucoup de logements. Et eux, c'est le coût de leur endettement que l'on prête. Donc, c'est un équilibre à trouver.
Mais on est sur un point haut en termes de rémunération du livret A. Le prochain mouvement sera a priori une baisse l'année prochaine.
Absolument. D'autant plus que, pour rentrer un petit peu dans le détail, ça c'est le livret A, mais à côté de ça, vous avez un autre livret, un petit frère qui s'appelle le livret d'épargne populaire, qui lui est totalement indexé sur l'inflation et qui est rémunéré actuellement à 5%. Et qui a lui eu une énorme dynamique. On parle quand même de 75 milliards d'encours, hein, David Jaco.
Bon. Le livret A est parfois utilisé pour préparer sa retraite. Est-ce que c'est un mauvais calcul?
Ah, je pense pas que ce soit l'outil. Oui, je pense pas que ce soit l'outil pour le meilleur outil pour la retraite. D'abord, le plafond est quand même relativement faible. On part de 22 500 euros. Et puis, il y a des outils bien mieux adaptés. On parle de plan d'épargne de retraite, d'assurance vie. Donc non, c'est pour moi plutôt un outil de précaution d'épargne, mais d'épargne courante qu'on peut immédiatement mobiliser. L'épargne de retraite, on sait exactement à quel horizon elle va se placer. Le livret A, c'est plutôt votre épargne de précaution pour dire, en cas de coup dur, je peux le mobiliser immédiatement sans risque en capital. Mais en revanche, on le sait bien, le rendement restera toujours de l'ordre de 3%, voire inférieur.
Olivier Sichel, 7,6 milliards ont été collectés sur le livret A et le LDDS, le livret de développement durable et solidaire de janvier à avril. À quoi sert cet argent? C'est une question qu'on peut se poser. On sait que la Caisse des dépôts gère 60% de l'épargne réglementée. À ceux qui pensent que c'est de l'argent qui dort, vous répondez quoi?
Il dort pas du tout, cet argent. Donc, il est centralisé à la Caisse des dépôts et il est mis au service des projets des territoires par la Banque des territoires. Alors, concrètement, c'est quoi? L'an dernier, on a prêté 16 milliards. On a prêté 16 milliards à qui? On a prêté 16 milliards aux organismes HLM pour construire et rénover des logements sociaux. Et on en construit énormément, et ça sert à satisfaire le besoin de logement des Français. Mais il n'y a pas que ça.
On a combien de logements sociaux, je sais pas, depuis 5-6 ans?
Alors, on est sur un rythme de 80 et 90 000 logements sociaux chaque année. C'est énorme, ça représente à peu près un logement sur 4. Et en rénovation, on rénove thermiquement, pour éviter que ce soit des passoires thermiques, à peu près 140 000 logements sociaux sur un parc social qui comprend plus de 5 millions de logements en France, de logements sociaux.
Et sinon, sur le terrain, que financez-vous très très concrètement, j'ai envie de dire?
Alors très concrètement, je vais vous dire, on finance par exemple
l'internet à très haut débit.
Alors l'internet à très haut débit.
Et la fibre.
La fibre. En zone rurale, oui. Dans les zones denses, à Paris, Lyon, Marseille, il n'y a pas besoin, les opérateurs le font. Mais quand vous êtes dans la Meuse, quand vous êtes dans l'Indre, quand vous êtes dans les Ardennes, quand vous êtes en Alsace, là c'est nous qui finançons le très haut débit avec ces infrastructures.
C'est plusieurs milliards d'euros d'investissement.
C'est 1 milliard d'euros d'investissement et c'est 1 milliard de prêts.
Voilà.
Pour un nombre de prises qui est passé, lorsqu'on a créé la Banque des Territoires, il y avait 500 000 prises au débit. Et là, on est à 10 millions de prises très haut débit. Donc ça change complètement
la
vie des Français.
C'est la fibre.
C'est la fibre.
Ouais. Et au-delà de ça, donc Internet haut débit, la fibre, les logements sociaux, vous financez quoi d'autre sur le terrain concrètement?
On finance les réseaux d'eau, les stations d'épuration. Mercredi, on avait un grand événement au Printemps des Territoires, on avait Christian Estrosi, le maire de Nice. On a financé 600 millions d'euros, la nouvelle station d'épuration qui va desservir toute la métropole de Nice. Et c'est important, cette station d'épuration, si vous connaissez Nice, elle est sur la promenade des Anglais. Et elle déverse son eau dans la baie des Anges. Donc la préoccupation de Christian Estrosi, c'est toujours de maintenir la qualité de cette eau, tout en traitant les eaux usées qui arrivent à cette station d'épuration. Donc ça, c'est un exemple très important. Et on avait prévu de faire 2 milliards pour rénover tous les réseaux d'eau, parce que beaucoup de nos réseaux d'eau fuient. Ouais. Et on a annoncé le doublement de l'enveloppe à 4 milliards. Vous voyez, c'est à ça que sert le livret A. C'est un gigantesque crowdfunding à l'échelon national. Chacun des Français met 100 euros, 200 euros, et la Banque des Territoires, elle finance des projets d'intérêt général dans l'eau. Autre exemple, les réseaux ferroviaires. On finance auprès des régions la mise en place de réseaux ferroviaires, par exemple la nouvelle ligne qui va s'ouvrir contre Aix-et-Ville-Nancy, qui sont des sujets de mobilité qui préoccupent énormément les Français. Eh bien, c'est le livret A qui sert à ça.
Également aussi la transition énergétique, on n'a pas parlé. Vous financez un gros morceau, notamment la rénovation énergétique des bâtiments, l'éolien, le solaire,
les batteries électriques. On a annoncé cette semaine le financement de l'usine Vercor, oui, qui à Dunkerque va être une gigafactory qui va faire des batteries électriques. C'est extrêmement important, c'est la seule entreprise française qui fait ça. En client, c'est Renault, donc ça va équiper les véhicules Renault. Et donc, on va créer cette grosse usine qui est en cours de construction pour avoir notre autonomie stratégique et éviter de dépendre des batteries chinoises, coréennes.
Depuis 2018, ce sont, j'ai regardé, quasiment 80 milliards d'euros, Olivier Sichel, qui ont été investis dans nos territoires. En France, vous ne manquez pas de moyens?
Non, on manque pas de moyens, on manque plutôt de projets.
Et ça peut surprendre d'entendre ça.
Ça peut surprendre. Parce
on imaginera le contraire.
Non. La collecte est là. L'argent est disponible. Il est disponible sur le très long terme. Les prêts que nous faisons, par exemple, sur les réseaux d'eau, c'est 40 ans. Donc c'est formidable. En revanche, il faut conduire ces projets. Il faut avoir des élus qui portent ces projets, qui ont envie d'investir. Et ces projets sont difficiles à conduire parce qu'on est dans un environnement réglementaire compliqué, parce que parfois il y a de l'hostilité. Vous parliez de l'éolien, bah, c'est difficile d'installer une éolienne. Vous parliez du photovoltaïque, il y a toujours des réticences à le faire.
Un peu moins ou toujours autant?
Alors sur l'éolien, il y en a beaucoup et on a de moins en moins d'éolien onshore. En revanche, on a de plus en plus de projets très ambitieux sur l'éolien offshore, au large des côtes. Et là, c'est vrai, en mer, ça dérange moins le paysage.
Ça coûte plus cher.
Mais ça coûte plus cher et c'est des enjeux technologiques qui sont très très importants.
Pourquoi ne pas ouvrir, on finit là-dessus, Olivier Sichel, le livret A, au financement de nouvelles missions, puisque les projets manquent dans vos missions actuelles hein.
Alors effectivement,
la question elle se pose.
La question se pose et on a ouvert le financement du livret A au logement intermédiaire. Donc là, vous savez, c'est pas le logement social, c'est un logement qui a une vocation intermédiaire, c'est-à-dire que les prix des logements seront inférieurs de 15% au prix du marché, mais on peut envisager d'autres logements. On a évoqué par exemple le financement du nucléaire. Vous savez que le président de la République a annoncé la création de 6 EPR. On sait que ce sont des projets extrêmement longs qui vont être risqués, et le livret A peut porter ça si les pouvoirs publics le décident. Donc, puisque là, de nouveau, c'est aussi le ministre de l'économie et des finances qui décide de l'utilisation des fonds du livret A.
Allez, merci Olivier Sichel, le directeur de la Banque des Territoires, directeur général délégué de la Caisse des dépôts. Merci à vous.
Merci.
Allez, on parle carte bleue à présent.
C'est dans votre intérêt, avec David Jacquot.
Avec Ofi Invest, une nouvelle dimension pour l'avenir.
Et si vous arrêtiez de payer avec votre carte bancaire dans les magasins ou lorsque vous faites des achats en ligne sur Internet? Bonjour Joël-Alexis Bialkevitch.
Bonjour.
Vous êtes le président de Delupay, mais ça c'est déjà possible de payer sans sortir sa carte bancaire? On peut le faire déjà, il y a des cartes bancaires virtuelles, il y a Apple Pay, Google Pay, on manque pas de e-solutions de paiement?
Alors, effectivement, il est possible de payer sans sortir la carte, mais en réalité, ce que vous ne voyez pas, c'est que c'est bien la carte qui fait le paiement. Et c'est un petit peu le problème. Vous faites un paiement avec Apple Pay ou Google Pay dans un magasin, et votre paiement fait un aller-retour aux États-Unis pour être traité par Visa ou Mastercard.
Et alors,
du coup, ça pose tout un tas de problèmes. La carte, c'est un moyen de paiement qui n'est pas très propre sur le plan environnemental. C'est très cher pour le commerçant. Et puis, vos petites habitudes de consommation sont à la disposition des États-Unis.
Donc, il y a un enjeu de souveraineté pour vous. Donc, avec votre solution de Delupay, vous souhaitez en fait remplacer la carte bancaire avec une solution qui serait, dites-vous, plus simple, plus rapide, plus sûre et qui passerait par un QR code qu'on flasherait. Expliquez-nous en quoi ça serait plus rapide qu'un paiement sans contact ou qu'Apple Pay ou Google Pay pour le client.
En fait, un paiement par Apple Pay ou Google Pay, justement parce qu'il est traité in fine par le réseau carte, implique un minimum de 5 intermédiaires entre un commerçant et un client. C'est comme ça que le système carte est conçu, pour des raisons historiques. Avec Apple Pay et Google Pay, vous en rajoutez un sixième. Donc ça signifie deux choses. La première, c'est que si vous avez un de ces intermédiaires qui ne fonctionne pas, votre paiement ne passe pas. La seconde, c'est que le paiement ne peut pas être plus rapide que l'intermédiaire le plus lent. Donc les jours pairs, quand vous avez de la chance, vous payez chez votre boucher avec Apple Pay, et puis ça prend 3 secondes. Les jours impairs, quand vous n'en avez pas, parce qu'un des intermédiaires est un peu lent, ça prend 15 secondes, 30 secondes, et puis la file d'attente s'allonge, et puis vous n'avez pas le temps de faire votre achat, et vous devez retourner au travail.
Bon, et donc Delupay, donc c'est une appli, on crée son compte j'imagine, et ensuite on paye les commerçants en flashant un QR code, c'est ça? Expliquez-nous.
Alors effectivement, c'est un des dispositifs techniques prévus par Delupay. Delupay fonctionne par code QR, par NFC, et aussi c'est une première mondiale qui nous a emmenés dans la délégation française au CES de Las Vegas, par Bluetooth Low Energy.
Ce qui veut dire que, par exemple?
Alors en fait, exemple, code QR, bah c'est simple, tout le monde a déjà vu des codes QR, donc vous ouvrez l'appareil photo de votre téléphone, vous le flashez, l'application de paiement s'ouvre, vous appuyez, c'est payé. NFC, bah vous tapotez votre téléphone sur le sticker du commerçant, l'application s'ouvre, vous cliquez, c'est payé.
Alors NFC, pour ceux qui ne connaissent pas?
NFC, c'est un système de paiement sans fil qui est déjà utilisé. En fait, quand vous payez par Apple Pay et Google Pay, vous payez par NFC. Sauf qu'il y a une énorme différence entre la manière dont Apple Pay, Google Pay et la carte classique utilisent NFC et nous. La différence, c'est que quand vous payez avec une carte classique ou avec Apple Pay, Google Pay, c'est une donnée qui est lue sur votre téléphone.
Ouais.
Alors qu'à l'inverse, quand vous payez avec de l'UPS, c'est votre téléphone qui lit une donnée sur le sticker. Il n'y a absolument rien qui est lu sur votre téléphone. C'est bien plus respectueux de la vie privée.
Donc le consommateur, quelque part, il est mieux protégé que votre solution. Mais en termes de rapidité, quand ça marche bien, c'est le même temps passé, non ?
Quand ça marche bien, oui. Par contre, c'est un coût environnemental à peu près x10.
Et par rapport à une carte bleue normale ou une carte bleue virtuelle ?
En fait, le coût environnemental du paiement par carte est lié à la carte. Il n'est pas lié à Apple Pay, Google Pay. Donc de toute façon, payer avec Google Pay, c'est diviser le coût environnemental de votre paiement par 10.
Bon, et maintenant pour le commerçant, ça revient moins cher ? Vous prélevez moins de commissions que Visa ou Mastercard ?
C'est exactement ça. La première raison pour laquelle j'ai créé de l'UPS, c'est pour arrêter le racket des commerçants. On sait tous qu'il y a un duopole américain qui se partage l'immense majorité des paiements cartes. On a un système en France qui s'appelle carte bleue, mais qui malheureusement traite de moins en moins de transactions parce que vous avez un petit piège qui a été mis en place par un certain nombre de néobanques qui donnent du cashback à leurs clients, mais pour pouvoir donner du cashback, on peut pas passer par le système français. Donc du coup, ces néobanques françaises ont mis le loup dans la bergerie.
Le paiement mobile, Joël Alexis Bialkevitch, ça connaît une croissance phénoménale, d'ailleurs au détriment des autres moyens de paiement. Ça donne de la place justement pour des acteurs émergents comme vous ?
Ah ben bien sûr, aujourd'hui si vous achetez sur internet avec une carte, vous allez devoir taper 23 chiffres, 16 chiffres de numéro de carte, 4 chiffres de date d'expiration, 3 chiffres de cryptogramme. C'est épouvantable. Et en plus de ça, si vous êtes trompé d'un seul chiffre, pour éviter d'aider le fraudeur, malheureusement, on va juste vous dire transaction refusée sans vous expliquer pourquoi. Donc c'est très énervant. Avec de l'UPS, c'est super simple. Si vous êtes sur un PC, vous avez juste à flasher le QR qui apparaît. Si vous êtes sur votre mobile, vous avez un bouton, vous appuyez sur le bouton, c'est payé.
Il y a une appli italienne qui s'appelle Satispay, qui fait un carton en Italie, qui vient également d'arriver en France. Le règlement s'effectue aussi en flashant un QR code. C'est à la mode, hein.
Alors oui, le règlement s'effectue aussi en flashant un QR code, mais il y a des différences assez importantes, notamment avec de l'UPay, c'est toujours vous qui flashez, c'est jamais le commerçant, vous n'avez jamais à taper le montant, et aussi et surtout, de l'UPay vous prélève à la fin du mois. Satispay, ils vous prélèvent à l'avance, ils font de la trésorerie sur votre dos.
Pour que ça marche et que ça se démocratise, il faut que tous les commerçants, un maximum, jouent le jeu, soient partenaires. Vous avez des objectifs, des ambitions ?
Notre ambition, c'est de devenir le premier moyen de paiement mondial dans 10 ans. Et on a une avance technologique, oui. On a une avance technologique qui le permet. Mais ceci dit, on a une grosse inertie à laquelle on doit faire face aujourd'hui. Et ça, je pense que ça nécessite une prise de conscience, aussi bien au niveau du grand public que des pouvoirs publics, qui doivent réaliser que si on veut un moyen de paiement, un champion dans le domaine des paiements en France, eh bien, il faut mettre les moyens.
Allez, merci à vous, Joël Alexis Bialkevitch, le président de De l'UPay.
Merci beaucoup.
Allez, on parle immobilier à présent.
C'est dans votre intérêt, les clés de l'immobilier.
Comment emprunter après 50 ou 60 ans ? Réponse avec vous, Marie-Christine Sanquin. Bonjour.
Bonjour David.
Rédactrice en chef patrimoine aux Échos. C'est vrai, quand on est senior, c'est la réalité, c'est un peu plus compliqué de souscrire un crédit immobilier.
Alors c'est vrai, hein, il faut pas se faire d'illusions. On va pas vous prêter de l'argent lorsque vous avez 60 ans, si vous aviez 30 ans. Mais il faut pas croire que c'est impossible. C'est tout à fait possible de continuer à emprunter lorsque vous avez 50, 55, voire 60 ans.
Oui, mais 60 ans pourra pas prendre un prêt immobilier sur 20 ou 25 ans.
Alors, absolument, parce que même si à 60 ans vous avez une espérance de vie très longue, hein, par exemple pour une femme vous avez une espérance de vie de l'ordre de 30 ans, eh bien pour les assureurs c'est pas du tout la même chose, pour les banquiers c'est pas du tout la même chose, eux ils voudront que vous ayez l'âge de 75 ans à la fin des remboursements. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous allez être obligé d'emprunter sur
une durée plus courte.
Évidemment plus courte, donc les mensualités vont bien sûr être plus lourde.
Ouais, un crédit immobilier quand on a 65 ans sur 10 ans, Oui, ça fait des mensualités très très élevées. Hein.
Ça fait des mensualités élevées, d'autant plus qu'il y a un problème lorsque vous avez un certain âge, c'est que l'assurance emprunteur va être beaucoup plus chère. Et alors les tarifs grimpent de façon exponentielle, parce que si vous avez 50 ans, l'assurance emprunteur, ça va être de l'ordre de 0,40. Mais si vous avez 60 ans, ça va monter grosso modo à 0,60, 0,65. Et si vous avez 65 ans, ça va dépasser les 0,70. Donc il faut vraiment faire très attention à ce montant de l'assurance emprunteur, parce que si l'assurance emprunteur est trop élevée, eh bien ça peut vous amener à dépasser le taux d'usure, donc ce taux au-delà duquel vous n'avez pas le droit la banque n'a pas le droit de vous prêter, donc ça peut être effectivement un obstacle pour la souscription d'un emprunt. Enfin, heureusement, il y a quand même quelques solutions voilà. Pour réduire le coût de cette assurance emprunteur.
Comment on fait pour emprunter dans de meilleures conditions, Marie-Christine, quand on a plus de 50 ou 60 ans? Comment est-ce qu'on réduit le coût de cette assurance?
Alors, c'est un peu le contraire de ce qu'on fait quand on est jeune, c'est que là, lorsque vous avez un certain âge, vous avez peut-être plutôt intérêt à prendre l'assurance groupe de la banque. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'assurance, il y a un principe de mutualisation. Donc, quand vous avez un profil de risque très bas, ben, vous avez intérêt à prendre une assurance spécifique qui correspond à votre profil, donc ça va vous coûter beaucoup moins cher. Par exemple, lorsque vous avez 30 ans et que vous êtes non-fumeur, ben, vous avez intérêt à sortir de l'assurance groupe parce que vous allez pouvoir emprunter, par exemple, avec un coût d'assurance emprunteur à 0,15. Mais lorsque vous êtes plus âgé, c'est exactement l'inverse. Vous avez intérêt à profiter de ce principe de mutualisation et ça peut vous coûter moins cher de prendre l'assurance groupe. Et puis, il y a d'autres petites astuces aussi qui sont intéressantes. Par exemple, si vous empruntez en couple, eh bien, au lieu de prendre l'assurance à 100% sur chaque tête, c'est-à-dire que si l'un des deux décède, eh bien, le crédit sera remboursé à 100%, eh bien, vous prenez 50% sur chaque tête. Donc, ça va vous coûter moitié moins cher et ça peut vous permettre de faire passer votre crédit. Et puis, il y a d'autres solutions encore qui existent. Par
notamment,
exemple,
nantir un contrat d'assurance vie.
Absolument. Ça, c'est une solution qui est hyper intéressante parce que ça vous fait sauter le coût de l'assurance emprunteur. Et si jamais il vous arrive un décès, et hélas, eh bien, la banque pourra se rembourser en récupérant votre contrat d'assurance vie. Et ça, c'est une solution qui est extrêmement intéressante. Alors évidemment, il faut déjà avoir un certain montant, mais c'est beaucoup plus intéressant d'emprunter parfois et de donner son contrat en nantissement plutôt que de liquider son contrat pour pouvoir financer l'acquisition d'un bien immobilier. Donc ça, il faut absolument y penser.
Allez, merci à vous. Marie-Christine Sonquin, rédactrice en chef Patrimoine aux Échos. Merci.
Merci David.
Voilà, c'est dans votre intérêt. C'est fini pour aujourd'hui. Émission à réécouter en podcast sur radioclassique.fr ou sur vos plateformes habituelles. Je vous retrouve bien sûr dimanche prochain. En attendant, la musique revient avec votre week-end Radio Classique présenté par Laure Maison.
Chez Ixina, à partir de 2 990 €, vous avez une cuisine sur mesure et électro inclus. Et en plus, vous avez un conseiller dédié pour tout votre projet. Ah oui, en plus, elle est garantie 10 ans. En fait, le prix Ixina, c'est vraiment bien plus qu'un prix. Ixina, oui à vos rêves. Ixina, réélu meilleure chaîne de magasins de l'année. Voir conditions sur Ixina.fr.
S'adapter aux enjeux de notre époque est un défi pour les épargnants. Vous pouvez agir seul ou confier la gestion de vos capitaux à un expert. Échiquier Gestion Privée vous apporte son savoir-faire et ses expertises pour valoriser votre épargne et gérer votre patrimoine. Dans une relation durable, basée sur la confiance et la proximité, Échiquier Gestion Privée façonne pour vous une stratégie patrimoniale sur mesure, en accord avec vos valeurs. Échiquier Gestion Privée, ensemble, faisons grandir votre patrimoine.
Vous trouvez que vos placements ne vous rapportent pas assez? Savez-vous qu'en suivant les conseils boursiers d'Investir, vous pouvez gagner plus de 9% par an? Avec la rédaction d'Investir, profitez des meilleurs conseils financiers et suivez l'actualité des marchés pour saisir toutes les opportunités. N'hésitez plus, abonnez-vous car maintenant, vous savez. Investir, l'abonnement très rentable depuis 50 ans. Les performances passées ne présagent pas des performances futures.
Le nouveau hors-série cuisine de Madame Figaro est enfin disponible. Au menu, les produits de saison qui inspirent les chefs. De nouvelles idées pour le barbecue et de délicieuses pizzas maison. 100 recettes à la saveur des beaux jours. Madame Figaro, parce que la cuisine est aussi une affaire de style. En vente actuellement en kiosque.
À l'occasion du 80e anniversaire du débarquement, la Croix Lebdo vous plonge dans trois destins à la croisée de l'histoire. Irving, un GI américain, débarque sur Utah Beach. Jacqueline, une fillette de 10 ans, tente de survivre au chaos des bombardements à Saint-Lô. Bernard, un résistant arrêté pour avoir aidé les Alliés, endure les conséquences de son courage. Ils nous livrent, heure par heure, le récit de cette journée à la fois glorieuse et terrible, où leurs vies ont été bouleversées à jamais. Ils racontent leur D-Day, un numéro captivant de la Croix-l'Hebdo, en vente chez votre marchand de journaux.
Allô maman, c'est Cléoplâtre. Je me suis cassé les deux bras. Tu pourrais pas venir m'aider à cuisiner, là, s'il te plaît?
Ah mince, ça tombe mal, j'ai lancé Javelot.
Ah, et papa, il peut pas?
Bah si. Ah bah non, il a amphithéâtre d'impro.
Très bien, bah sympa. Bon bah j'ai plus qu'à me commander un grec alors.
Attendre des siècles pour obtenir de l'aide en cas de coup dur, c'est du passé. Avec Aesio Mutuel, bénéficiez d'une assistance en cas d'hospitalisation ou d'une aide à domicile si vous êtes immobilisé. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Informations et conditions en agence ou sur aesio.fr.
Salut, c'est Bruno Solo. Si je soutiens la Fondation Personnage depuis des années, c'est parce qu'il y a encore beaucoup à faire contre les préjugés sur le handicap. On pense souvent que toutes les personnes handicapées mentales bénéficient d'un lieu de vie adapté. Mais en fait, plus de 40 000 personnes attendent encore une solution d'accueil et de soutien. C'est pourquoi Personnage se bat pour leur créer des places, pour qu'elles puissent vivre dans le respect et la dignité. Alors rejoignez-nous dans ce combat et faites un don sur personnage.org pour mettre une claque aux préjugés.
Dans un instant, votre week-end de Radio Classique avec Laure Maison.
Vendre cet immeuble haussmannien pour payer les droits de succession, voilà ce que redoutaient Virginie et Sophie quand elles ont hérité de leur père. Heureusement, grâce au cabinet Bougardier, elles ont souscrit un prêt hypothécaire à long terme. Dans 15 ans, au moment de leur retraite, le prêt sera remboursé et elles percevront la totalité des loyers de l'immeuble. Comme pour Virginie et Sophie au cabinet Bougardier, nous aimons trouver la solution de financement à laquelle on ne pense pas toujours. Cabinet Bougardier, avenue de l'Opéra à Paris et sur bougardier.fr.
Vous êtes bien avec Radio Classique. h 30, 11h, votre week-end Radio Classique avec Laure Maison.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce dimanche matin. Je vous tiendrai donc compagnie en musique jusqu'à 11h et je vous propose de commencer ce programme avec quelques notes bien viennoises avec Johann Strauss et sa célèbre chauve-souris dont voici l'ouverture. Thank you. Nicolas Oussard-Noncourt, grand amoureux de la musique viennoise, dirigeait ici l'orchestre royal du Concertgebouw Amsterdam dans l'ouverture de la Chauve-souris de Johann Strauss. Un autre viennois ce matin sur Radio Classique, Franz Schubert, sous les doigts du pianiste Aurélien Pontier. Quelques extraits du tout nouvel album d'Aurélien Pontier qui vient de paraître chez Warner. Un programme conçu comme un voyage à Vienne justement, un programme qu'il donnera d'ailleurs en récital à la salle Cortot. Ce sera dimanche prochain, le 9 juin à 20h. Thank you. Deux pages de Franz Schubert, extraites du tout récent album d'Aurélien Pontier, la Kuppelwieser Walzer dans un arrangement de Richard Strauss et à l'instant le lied An die Musik dans un arrangement d'Aurélien Pontier. Un album placé sous le signe de la musique viennoise, mais au programme duquel figure également une page de Tchaïkovski, Tchaïkovski qui était un grand amoureux de la valse.
Thank you.
Cette valse scherzo de Piotr Tchaïkovski était jouée par Aurélien Pontier, un extrait de ce tout nouvel album qui vient de paraître chez Warner. Je vous rappelle qu'Aurélien Pontier sera en récital dimanche prochain, le 9 juin, à la salle Cortot. Et je vous propose de rester encore quelques instants sur Radio Classique dans l'univers ensorcelant, envoûtant de la valse, avec cette fois-ci le deuxième mouvement, le tempo di valse, de la sérénade pour cordes d'Antonin Dvorak. C'était le deuxième mouvement, la valse de la sérénade pour cordes de Dvorak. L'Orchestre national d'Auvergne était dirigé par Roberto Forest-Vesses. Une petite pause maintenant et juste après, Adam Laloum joue Brahms et Schumann.
Radio Classique vous attend pour son grand concert anniversaire. Venez écouter le meilleur de la musique classique et voter pour vos œuvres préférées avec l'Orchestre National d'Île-de-France dirigé par Lucie Leguet et la participation exceptionnelle du pianiste Alexandre Tarot. Le grand concert anniversaire de Radio Classique, présenté par Jean-Michel Duez les 4 et 5 juillet au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Réservation au 01 49 52 50 50 ou sur théâtrechampselysees.fr.
Retrouvez le grand concert anniversaire de Radio Classique avec Échiquier Gestion Privée. Échiquier Gestion Privée, ensemble, faisons grandir votre patrimoine.
Créé par le pianiste David Frey, l'Offrande musicale, festival hors norme dans les Hautes-Pyrénées, revient pour une 4e édition. Le festival poursuit son engagement pour le handicap et accueille des artistes exceptionnels. Autour du généticien Arnold Munich, parrain de cette 4e édition, Nathalie Dessay, Emmanuel Haïm, Félix Kliezer, Daniel Lozakovic, Jakub Józef Orlinski, Sonia Jantcheva. L'offrande musicale du 29 juin au 13 juillet dans les Hautes-Pyrénées. Tous les détails sur offrandemusicale.fr.
Vous trouvez que vos placements ne vous rapportent pas assez? Savez-vous qu'en suivant les conseils boursiers d'Investir, vous pouvez gagner plus de 9% par an? Avec la rédaction d'Investir, profitez des meilleurs conseils financiers et suivez l'actualité des marchés pour saisir toutes les opportunités. N'hésitez plus, abonnez-vous car maintenant, vous savez. Investir, l'abonnement très rentable depuis 50 ans. Les performances passées ne présagent pas des performances futures.
La Grange Lac présente les rencontres musicales d'Evian 2024. Du 26 juin au 6 juillet, Klaus Makela et l'Orchestre de Paris, Sonia Jantcheva, Bertrand Chamaillou, Daniel Lozakovic et bien d'autres artistes vous donnent rendez-vous dans le cadre enchanteur de la Grange Lac. 21 concerts exceptionnels, dont un hommage à Gabriel Fauré avec l'intégrale de la musique de chambre du compositeur. Les rencontres musicales d'Evian sous la direction artistique de Renaud Capuçon. Réservation sur lagrangelac.com.
La nouvelle saison de l'Auditorium Orchestre National de Lyon est ouverte. Que vous soyez fan de musique américaine, que votre cœur balance plutôt vers la Vienne de Schubert ou de Mahler, que vous préfériez Ravel, Manuel de Falla ou Shostakovich, cette nouvelle saison, qui célèbre les 50 ans de l'Auditorium de Lyon, devrait vous combler. Concerts symphoniques, musique de chambre, récital, ciné-concerts, jazz, l'Orchestre National de Lyon et son directeur musical Nikolai Schepp-Schneider vous attendent. Toute la programmation est sur auditorium-lyon.com.
Radio Classique présente le dictionnaire amoureux de l'aventure par Olivier Weber. L'aventure, de Télémaque à Jules Verne, de la mer Rouge aux routes de la soie, des péripéties collectives aux rêveries en solitaire. Dans ce dictionnaire amoureux, retrouvez les lieux, les mythes et les grands noms qui composent les paysages de l'aventure portés par l'appel du grand dehors. Le dictionnaire amoureux de l'aventure par Olivier Weber aux éditions Plomb. En vente partout et sur radioclassique.fr.
Joyau de l'architecture Renaissance, le château de Chambord ouvre ses portes au Festival de Chambord en juillet. Musique, chorégraphie contemporaine, poésie, prose, sa programmation originale, imaginée par la pianiste Vanessa Wagner, sa directrice artistique, est un voyage à travers l'histoire et la musique. Avec Patricia Petitbon, l'ensemble Amaryllis et Héloïse Gaillard, Olivier Py, la compagnie Entité, le quatuor Modigliani. Le 13e Festival de Chambord, du 6 au 20 juillet. Tous les détails sur chambord.org.
Bonjour, c'est Alain Duo. Les sortilèges des mille et une nuits. C'est ce que je vous propose avec Radio Classique qui aborde un yacht ponant raffiné pour un tour du golfe persique de Dubaï au Sultanat d'Oman avec des musiques au parfum d'Orient distillées par Maurizio Balini au piano, Raphaël Moreau au violon, Adrien Lamarca à l'alto, Astrid Cyranocion au violoncelle et la voix chaude d'Anna Goriakova.
Réservez votre croisière Ponant Radio Classique au 04 91 300 888 sur ponant.com ou dans votre agence de voyage.
La musique revient dans un instant sur Radio Classique.
Peugeot. Il y a la reprise et il y a la reprise par Peugeot. La façon la plus simple, la plus rapide, mais aussi la plus sûre de revendre votre voiture. Et en ce moment, c'est également la plus avantageuse. Car pendant les 24 jours chrono, Peugeot vous offre jusqu'à 5000 euros d'avantage client pour la reprise de votre véhicule. Alors, jusqu'au 24 juin, venez découvrir nos modèles en point de vente et profitez de conditions exceptionnelles pour repartir au volant de votre nouvelle Peugeot.
Offre réservée aux particuliers valable jusqu'au 24 juin. Conditions sur Peugeot.fr. Au quotidien, prenez les transports.